Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous sommes ravis de vous proposer un nouveau numéro de cette émission dédiée, vous le savez, aux idées via une œuvre, un auteur, un fait d'histoire ou de société. Société, je n'ai pas choisi ce mot par hasard, il est souvent employé par les sociologues. Cela tombe bien, nous allons parler de la vie et de l'œuvre de celui qui est souvent présenté comme le fondateur de la sociologie. Il s'agit d'Émile Durkheim. Grâce à notre invité Mathieu Béra, spécialiste de ce penseur, et grâce à la publication exceptionnelle de « Leçons de sociologie criminelle », nous allons en effet nous attarder sur la pensée de Durkheim, et notamment sur sa vision du crime. Il est le premier à envisager le crime sans considération morale, écrit Mathieu Béra. Voici un nouvel épisode dans le grand feuilleton des idées qui s'ajoute à notre collection, à tous les magazines que nous vous proposons depuis déjà une bonne dizaine d'années et que vous pouvez retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr ou sur votre plateforme numérique préférée en tapant simplement idées RFI. Je vous rappelle que vous pouvez également vous abonner afin de recevoir votre dose d'idées chaque semaine par courriel. Bonjour Mathieu Béra.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'université de Bordeaux, une ville importante pour comprendre Émile Durkheim, on va le constater dans un instant. Vous êtes spécialiste de ce sociologue, mais aussi de l'histoire de la sociologie, notamment, tout est lié sans doute. Vous êtes l'auteur du livre « Émile Durkheim à Bordeaux, 1887-1902 », publié aux éditions Confluence. C'est co-auteur de « Sociologie de la culture » avec Yvon Lamy, un livre publié chez Armand Collin dans une première édition en 2003 et une nouvelle édition en 2011. Je suis ravi, grâce à vous, Mathieu Béra, de faire la connaissance de Durkheim et de proposer à nos auditeurs un cours, en quelque sorte, une leçon sur Durkheim. Pourquoi cet intérêt pour ce sociologue, d'ailleurs ? Parce que ça fait combien de temps que vous étudiez Durkheim ?
J'étudie Durkheim depuis une quinzaine d'années. J'ai été dans un premier temps sociologue de l'art et de la culture. J'ai fait une thèse sur les critiques d'art dans la presse. Et au bout d'une dizaine d'années d'enseignement, je me suis un peu lassé de cette spécialité. Et comme j'étais enseignant à Bordeaux de sociologie, je me suis rendu compte que rien de très important n'avait été écrit sur Durkheim à Bordeaux. Et je me suis lancé dans une enquête très empirique sur les lieux d'habitation de Durkheim. J'ai identifié les deux maisons qu'il avait habitées. J'ai vu qu'une plaque avait été apposée au mauvais endroit. Donc la mairie a rectifié le tir.
Grâce à vous ?
Grâce à moi, grâce à un colloque que j'ai organisé en 2012. Il y a le maire de Talence qui est venu inaugurer la nouvelle plaque, qui était tout content de savoir que Durkheim avait habité à Talence et non pas à Bordeaux.
Ah, c'est
voilà,
différent,
parce que c'était un côté du boulevard qui était sur Talence, qui jouxte Bordeaux. Et puis ensuite, il a déménagé effectivement à Bordeaux de 97 à 1902. Mais en fait, il a changé de trottoir. Donc voilà, c'était une enquête très, très empirique, très proche de l'homme. Je voulais beaucoup m'intéresser à l'homme Durkheim, connaissant le savant et son œuvre. Et comme j'enseigne beaucoup Durkheim à mes étudiants, je voulais qu'ils aient un contact avec l'homme, avec le père de famille, avec l'habitant de Bordeaux, connaître son trajet de tram, enfin des choses très très concrètes.
Humaniser le penseur en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, exactement. Identifier les lieux où il avait enseigné, tout simplement. Actuellement, c'est le musée d'Aquitaine. Mais anciennement, c'était donc la fac de lettres et de sciences. Donc j'ai retrouvé les amphis, des photos d'amphithéâtre.
Et tout ça se trouve dans ce livre, Émile Durkheim à Bordeaux, publié aux éditions Confluence, qu'on peut encore trouver et qui est riche d'une iconographie de qualité. Et c'est grâce aussi à ce livre qu'on va pouvoir faire cette émission, en quelque sorte, Mathieu Béra. Mais il nous faut surtout parler de leçons de sociologie criminelle, qui est une démarche intellectuelle hors du commun, hein, que vous avez menée. Avant de parler de ces leçons de sociologie criminelle, il nous faut présenter un peu Émile Durkheim. Nous savons donc qu'il a habité Bordeaux, grâce à vous. On dit souvent de lui qu'il est le fondateur de la sociologie. Est-ce exact? Parce qu'on parle aussi d'Auguste Comte.
Alors, pour ce qui concerne la France, ce n'est pas l'inventeur du mot sociologie. Effectivement, c'est Auguste Comte qui a inventé le mot en 1830 dans ses cours publics. Mais c'est Durkheim qui est celui qui a institutionnalisé la sociologie, donc qui a contribué à son institutionnalisation dans les universités françaises. Donc, d'abord à Bordeaux pendant 15 ans, et puis ensuite, quand il a été muté à Paris, à la Sorbonne, la sociologie est rentrée avec lui, à la Sorbonne.
Alors, il faut préciser que c'est un homme de la seconde partie du 19e, et qui a vécu aussi au début du 20e siècle, 1858 exactement, naissance à Épinal, dans les Vosges, et mort à Paris en 1917. Et c'est décidément un siècle important que ce 19e siècle.
C'est un siècle très très important. Et quand on étudie les sources, la bibliographie des ouvrages de Durkheim, on se rend compte que c'est forcément un très gros lecteur du 19e. Il est plongé par ses racines dans le 19e. Il se réclamait du comtisme, effectivement. Il admirait énormément Auguste Comte. Mais c'était aussi un lecteur international. Puisque l'auteur le plus cité dans sa thèse de 1893, c'est Herbert Spencer, qui était un grand philosophe, sociologue, entre guillemets, on peut dire, anglais. Et puis, il lisait les Allemands énormément. Donc, c'est quelqu'un qui lisait en permanence les Anglais, les Allemands, les Français. Donc, cette science sociale qui émergeait et qui n'était pas encore institutionnalisée dans les universités, mais qui était dans l'air du temps depuis le milieu du 19e en France. C'est un peu sous le Second Empire de Napoléon III qu'on a essayé de développer les sciences sociales, qu'on appelait à l'époque des sciences gouvernementales, c'est-à-dire des sciences qui devaient aider le pouvoir à mieux connaître la population pour finalement mieux la contrôler, hein, pour être un peu foucaldien, bien savoir...
Surveiller et punir.
Voilà, c'est ça, pour maîtriser notamment les éventuelles révoltes, révolutions qui étaient très abondantes en France, puisqu'il y en a eu en 1830, en 1848, en 1870. Donc la France était un pays très agité et le pouvoir était très inquiet.
La sociologie, selon lui, c'est la science des faits sociaux. C'est cela, c'est la définition qu'il donnait de la sociologie.
C'est ça, c'est une définition qu'il propose en 1994 dans un article paru dans la Revue philosophique, puisqu'il n'y avait pas de revue de sociaux à l'époque.
Qu'il a créé, lui, on verra ça tout à l'heure.
Voilà, lui, il aura créé une revue. Mais donc dans la Revue philosophique de Théodule Ribaud, un personnage très important à cette époque, philosophe et psychologue. Et donc dans cet article qui paraît pendant l'été 94 et qui deviendra un ouvrage en 95, « Les règles de la méthode sociologique », il définit très clairement la sociologie comme l'étude des faits sociaux. Alors la question c'est qu'est-ce que les faits sociaux?
J'allais vous la poser, évidemment.
Et donc les faits sociaux, c'est en fait, on pourrait dire, l'ensemble des faits qui sont en dehors de nous et qui s'imposent à nous. C'est une définition par la contrainte et qui s'oppose beaucoup à la définition des économistes qui partent de l'individu, de la rationalité individuelle. Durkheim s'intéresse plus à tous ces faits qui nous contraignent, que ce soit des faits moraux, que ce soit des croyances ou que ce soit des pratiques. Donc des choses, si vous voulez, qui s'imposent à nous et qui permettent d'expliquer ensuite nos comportements.
C'est pour ça qu'il s'est intéressé évidemment à la religion, par exemple.
Voilà, ça fait partie effectivement des faits sociaux les plus contraignants. La religion s'impose aux croyants par tout un système de dogmes et bien sûr par tout un système de pratiques rituelles. Et ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Durkheim a une éducation religieuse très stricte puisqu'il est fils de rabbin. Et non pas n'importe lequel rabbin, Moïse, son père, était rabbin des Vosges. Donc une figure du rabbinat. Et alors, les biographes ne savent pas trop si Durkheim a lui-même suivi des études poussées pour devenir rabbin. Je ne pense pas, parce qu'il était très vite apparu comme un élève brillant au lycée, et son père l'a laissé faire des études de philosophie dès la première et la terminale.
Oui, puis il a pris ses distances par rapport à la religion, aux faits religieux.
Voilà,
oui.
Il a pris ses distances. Alors j'ai écrit des articles assez pointus sur le sujet, parce que ça m'a beaucoup intéressé, le rapport de Durkheim au judaïsme. Et on peut dire que quand il préparait Normale Sup, hein, il était encore dans une observance stricte, hein, des rites, hein, puisqu'il mangeait kashrout, hein, donc il faisait attention à tout ce qu'il mangeait selon les rites juifs. Hein. Et puis il s'est marié en 87 à la synagogue. Et puis finalement, quand il est devenu prof de fac, il a perdu le contact avec, avec son père, parce que je pense qu'il a fait tout ça pour ne pas froisser son père, qui est mort en 96. Et il s'est marié avec une juive qui s'appelait Louise Dreyfus, mais elle n'était pas pratiquante, elle non plus, et ils ont refusé d'éduquer leurs enfants dans la pratique religieuse.
Émile Durkheim, Mathieu Bérard, est aussi connu pour son livre sur le suicide.
Alors, ce n'est pas son premier livre.
Non, le premier est justement les règles de la métasociologie.
Alors, le premier, c'est la division du travail social qui sort en 93, c'est sa thèse, en fait. Donc, à l'époque, on devait publier avant de soutenir. Donc, 93, il publie et il soutient en mars 93. Ensuite, vous avez les règles de la méthode, effectivement, en 95. Et le suicide en 97. Donc tout ça se fait dans une enveloppe, hein, très serrée. Il est extrêmement productif. Là, on est à Bordeaux. Hein. C'est une période où il publie ouvrage après ouvrage dans une même logique. Et le suicide de 97, toujours chez le même éditeur Alcan, est un ouvrage qui a tout un effet très important.
Alors, il faut en parler, évidemment, Mathieu Bérard. Quelle est sa conception ? Pourquoi il étudie le suicide ?
Alors, il étudie le suicide parce que le suicide est un phénomène apparemment très individuel et il veut montrer que les individus ne se suicident pas pour des motifs individuels, mais parce qu'ils sont déterminés par des forces sociales qui les dépassent, dont ils n'ont pas conscience. Et il le démontre avec des statistiques qui sont assez abondantes à l'époque, puisqu'on a des statistiques sur le suicide et sur le crime, le suicide étant considéré comme une forme de crime dans la statistique publique. Les statistiques existent depuis 1825 et il arrive à montrer que, en faisant des études comparatives, que par exemple, les protestants se suicident trois fois plus que les catholiques. Alors il élabore des théories là-dessus, il se demande pourquoi, donc en comparant. Et c'est selon lui parce que les protestants sont dans une société moins intégrée, ils sont plus individualistes et donc plus soumis à leur propre pensée, on peut dire. Et livrés à eux-mêmes, avec leur conscience. Du coup, ça peut effectivement les amener à se suicider plus. Mais alors, il fait plein de comparaisons hein, dans le suicide. C'est un ouvrage de statistiques qui résonne avec des corrélations, ce qu'il va faire avec le crime aussi. Hein. C'est un ouvrage qui montre que le suicide est un phénomène masculin. C'est à 85%, c'est les hommes qui se suicident. Les suicides féminins sont extrêmement rares. Et ce qui est intéressant avec l'ouvrage de 97 de Durkheim, c'est que beaucoup de chiffres sont encore totalement actuels. Hein, Tout est valable quasiment dans ce qu'il dit, dans ses manières de raisonner. Encore aujourd'hui, le suicide est un phénomène masculin. Voilà, on n'a pas, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de statistiques sur le suicide en fonction des confessions religieuses, puisque à l'époque, on pouvait demander pendant le recensement quelle est la confession religieuse des gens. Aujourd'hui, c'est interdit ou la statistique n'a pas le droit.
Ce que vous dites sur les statistiques, sur les chiffres, sur ces données qu'il étudie, me donne à penser qu'il faut rappeler aux auditeurs que la sociologie veut expliquer scientifiquement le monde, de façon objective.
Exactement, exactement. Et donc, ce qu'explique Durkheim dans les règles de la méthode sociologique, c'est qu'il faut toujours déjà construire le fait sociologique, hein, donc le construire, par exemple, qu'est-ce que le suicide? Donc le définir, et notamment le définir avec le taux de suicide de la statistique, hein, donc raisonner non pas en termes de suicide individuel, mais en termes de taux de suicide annuel. Et puis, il faut utiliser les statistiques pour faire des corrélations et pour administrer la preuve. Donc, la question de la preuve est essentielle chez Durkheim. Il faut toujours faire une hypothèse, la tester et la prouver. Donc, on peut faire des hypothèses qui échouent, donc on exclut certaines explications, et on peut faire des hypothèses qui fonctionnent. Par exemple, démontrer que le divorce va entraîner plus de suicides, eh bien, il compare des pays qui autorisent le divorce et avec des pays qui n'autorisent pas le divorce, et il montre que les pays qui autorisent le divorce ont beaucoup plus de suicides. Voilà, ça c'est un exemple de preuve par la statistique.
Sans accabler nos auditeurs avec trop de noms propres, il faut quand même ce que vous faites dans votre livre, Mathieu Béra, parce que je rappelle que vous êtes le spécialiste d'Émile Durkheim, qu'il a face à lui à l'époque un certain Gabriel Tarde, qui est le maître, non, en matière de sociologie ou...
Alors, Gabriel Tarde est un. On ne peut pas dire que c'est le maître en sociologie, puisque Gabriel Tarde, à la base.
C'est un juriste plutôt,
Voilà,
non?
c'est un
Oui.
magistrat. Hein, c'est un magistrat spécialiste de la criminalité, justement, que Durkheim va beaucoup lire. Et c'est un magistrat qui travaille sur des objets qui intéressent Durkheim. Alors, effectivement, rétrospectivement, maintenant, on dit que Tarde était un sociologue. Parce qu'il a obtenu au Collège de France, si je me souviens bien, en 1900, la chaire de. Alors, elle s'appelait pas de sociologie, elle s'appelait, je ne sais pas comment, j'ai oublié, de philosophie, peut-être, sociale. Et à ce titre-là, pendant 5 ans, parce que je pense qu'il est mort assez vite, il est mort 5 ans plus tard. Il a été considéré comme un sociologue. Lui-même écrivait des ouvrages qui pouvaient ressembler à de la sociologie. Il utilisait l'explication sociologique. Mais aujourd'hui,
Mais ce n'était
Gabriel.
pas de la sociologie.
Mais alors, c'est une forme de sociologie qui est un peu réhabilitée depuis quelques années, de quelques décennies en France, et qui appartient à un courant anti-durkheimien. Donc aujourd'hui, en France, si vous voulez, avec le recul de 100 ans de sociologie, on a des courants qui se sont dessinés, parce qu'à l'époque, il y avait pas de sociologues. Et puis, à partir des années 60, en 68, en France, on avait 100 sociologues. Aujourd'hui, on en a 1500. Et donc, ils créent
Des
des
chapelles.
chapelles, on peut dire, quelquefois qui se détestent, qui se parlent pas du tout, qui se critiquent beaucoup. Vous avez les bourdieusiens, vous avez les boltanskiens, vous avez les touriniens, vous avez tout ce que vous voulez. Ça sera un autre sujet. Et donc, il y a des descendants de Tarde qui sont plus proches de l'explication individualiste, hein, qu'on appelle aussi l'interpsychologie. Et vous avez des descendants de Durkheim qui sont plutôt on appelle ça des holistes, hein, c'est-à-dire qui expliquent
De façon générale, de façon
l'action
globale.
individuelle par le contexte plus, par les forces sociales.
Quel est l'apport d'Émile Durkheim dans le monde de la sociologie? En quoi est-il encore aujourd'hui d'actualité dans le monde des idées?
Son apport est considérable. Bon, évidemment, mon point de vue est biaisé par le fait que je suis un spécialiste de cet objet, donc je ne vais pas vous dire que je
Donc
travaille
il y a
sur.
lui et les autres.
Voilà. Mais disons que son apport est reconnu internationalement, déjà, c'est ce qui est important, ça permet de se décentrer aussi. Il y a des grands spécialistes de Durkheim en Chine, en Amérique du Sud,
Ça, c'est intéressant.
en Afrique.
En Amérique latine, effectivement, au Brésil
Au
notamment,
Brésil,
le pays
ils
d'Auguste
sont.
Comte.
Voilà, parce que le Brésil a un drapeau avec une devise « ordre et progrès », qui est la devise d'Auguste Comte, et Durkheim était un fan d'Auguste Comte. Donc Durkheim est aujourd'hui considéré comme très important. Alors en France plus spécifiquement parce qu'il a participé à l'introduction de l'enseignement de la sociologie dans les universités, ce qui n'est quand même pas rien. Ce que Tarde n'a pas du tout fait, pour reprendre Tarde, hein, qui était prof au Collège de France. Et le Collège de France, ce n'est pas l'université, c'est à part. Donc il a produit cette exigence scientifique autour du social, administration de la preuve, etc., comme je le disais. Et des sociologues aujourd'hui très connus comme Pierre Bourdieu, qui est le sociologue le plus cité, le plus utilisé dans le monde, était un néo-durkheimien. Il connaissait absolument parfaitement l'œuvre de Durkheim. Il a contribué à l'éditer aux éditions de Minuit en 3 volumes. Et pareil pour le neveu de Durkheim, Marcel Mauss, édité aux éditions de Minuit dans la collection de Bourdieu. Donc on peut dire que Bourdieu est fondamentalement un néo-durkheimien.
Est-ce qu'il y a des termes, des mots qui restent, qui remontent, j'allais dire, à Durkheim? Conscience collective, par exemple, est-ce que c'est un terme qui vient de lui?
C'est un terme qui vient de lui et c'est un terme... Alors, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Hein, là, on pourrait faire une généalogie. Mais c'est un terme qu'il utilise beaucoup dans le cours que j'ai édité, de leçons de sociologie criminelle. Mais c'est un terme qui est aussi maintenant utilisé contre lui, parce qu'on considère que la conscience collective, c'est une notion qui ne tient pas la route. Enfin, certains considèrent que, et on lui préférera plutôt la notion d'opinion publique. Voilà. Mais la notion de conscience collective, c'est quelque chose qui, si on accepte de l'affiner un petit peu, est une notion très intéressante parce que, bon, encore aujourd'hui, on le voit avec les élections qui viennent de se passer, l'opinion publique, tout le monde sait ce que c'est considérable. Dans les médias, on contribue à produire cette opinion publique, à transformer cette opinion publique. Donc, on est vraiment dans une optique de la sociologie quand on parle d'opinion publique et de conscience collective.
Sauf que dans cette expression conscience collective, il y a conscience, qui a un ressort psychologique aussi.
Voilà. Alors là, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit bien que le savoir sociologique a des racines dans la psychologie, dans le savoir psychologique. Et depuis que je travaille sur Durkheim, j'ai appris énormément de choses, et notamment, moi qui n'ai pas une formation de philosophe, j'ai beaucoup appris en philosophie, et la philosophie était divisée en plusieurs branches, et l'une des branches, c'est la psychologie, c'est quasiment la principale. Et la psychologie a été un modèle scientifique pour Durkheim, en termes justement d'expérience, d'expérimentation, de probation, de causalité, pour construire la sociologie à côté et contre. Il a beaucoup construit contre la psychologie, c'est-à-dire l'explication individuelle des faits sociaux, mais il n'empêche que le modèle scientifique de la psychologie l'a énormément inspiré.
Idée, la parole à ceux qui pensent le monde.
Nous parlons d'Émile Durkheim aujourd'hui avec notre invité Mathieu Béra et nous allons venir maintenant à ses leçons de sociologie criminelle. Il faut d'abord dire que c'est une formidable aventure intellectuelle que ce livre, parce qu'il s'agit de 13 leçons que Durkheim a données à Bordeaux autour de cette notion de crime. Mais ce n'est pas un livre en tant que tel, c'est vous qui l'avez créé en quelque sorte.
Je voulais absolument retrouver les cours de Durkheim que personne ne connaît. Et les cours qui sont à l'origine de ces livres, puisqu'il a commencé à enseigner dès 87, et tous les ans il faisait un nouveau cours sur un thème. On connaissait les titres des cours, mais on n'avait pas les contenus de ces cours. Et moi, je m'intéresse au cheminement de la pensée du fondateur de la sociologie, donc je m'intéresse aux origines de la sociologie, et je voulais absolument retrouver ses cours. Et j'ai eu plusieurs techniques d'investigation qui viennent de ma formation de sociologie, peut-être, hein, mais je me suis transformé peu à peu en historien, en fait. J'ai d'abord cherché à nouer des contacts avec les descendants de Durkheim, qui sont très nombreux. J'en connais maintenant beaucoup et j'ai des liens amicaux et très agréables avec certains d'entre eux. Et j'ai aussi utilisé une autre piste. J'ai identifié les 200 étudiants que Durkheim a eus pendant les 15 ans à Bordeaux, grâce aux archives départementales qui a gardé les archives de la faculté. Et j'ai essayé de retrouver des descendants d'étudiants. En pensant que peut-être certains avaient conservé des notes de cours de leurs ancêtres. Et il se trouve que cette piste-là n'a pas encore abouti, sauf pour certaines choses. J'ai retrouvé des lots de correspondances très intéressants d'étudiants avec Durkheim que je vais éditer chez Garnier. Mais pour ce qui est d'un cours, qui était mon rêve absolu, je l'ai trouvé chez un descendant de Durkheim, chez une descendante de Durkheim.
Alors il s'agissait d'un cahier ?
Oui. Hein,
c'est ce que vous nous expliquez dans le livre,
relié comme un livre.
Comme un livre, comme on le faisait à l'époque. Ce sont des notes prises par un certain Marcel Mauss, qui était lui-même neveu de Durkheim.
Voilà, c'était un des étudiants de Durkheim pendant cette année-là, et c'était en même temps son neveu, qui avait 14 ans de moins que lui, puisque Mauss est de 72 et Durkheim est de 58. Donc Mauss, après son bac en 90, donc lui aussi issu de la ville d'Épinal, a été envoyé par la famille pour faire des études brillantes avec son oncle, qui avait très bien réussi, estimait-on, dans la famille. Et il a préparé son agrégation sans passer par Normale Sup. Là aussi, c'était une décision de famille, alors qu'il aurait sans doute eu les capacités pour avoir le concours de Normale Sup. Et il a suivi l'enseignement de son oncle pendant 5 ans, avec une interruption d'une année où il a été à la Sorbonne, où il a fait connaissance avec des personnages qui sont devenus des amis. Et donc, il se trouve que Mauss a suivi les cours de Durkheim, et puis il a suivi les cours de tous les philosophes de la faculté, comme Espinasse, qui était aussi le doyen, ou Hamelin, qui était un philosophe maintenant un peu oublié, mais que je vais essayer de faire revenir
prochainement,
un peu aux avant-postes, puisque c'était le meilleur ami de Durkheim, et ils avaient des sujets très très proches.
Mathieu Béra, il faut préciser, et là j'ouvre une parenthèse, que Marcel Mauss s'est présenté, lui, comme le fondateur de l'anthropologie.
Oui, c'est vrai, bien sûr, mais là c'est les années 30. Donc on bascule dans le monde post-14-18, Durkheim est mort en 17, donc l'influence de l'oncle, il s'appelait l'oncle, a disparu à cette époque, avec la mort de Durkheim, et Mauss s'est émancipé, il est devenu un peu le chef de la bande des Durkheimiens qui tournait autour de l'année sociologique. On n'en a pas parlé, mais c'est très important, l'année sociologique, la revue de Durkheim, et il s'est, lui, spécialisé dès 1900 dans les études d'anthropologie des religions, primitives, entre guillemets. Et peu à peu, donc, avec cette spécialisation, il a fondé l'Institut d'ethnologie. Et puis, il est devenu un grand professeur. Et il a eu des étudiants qui sont devenus des gens connus, brillants. Et c'est quelqu'un qui a marqué aussi énormément son époque, mais plus l'entre-deux-guerres, en fait.
Donc, il faut préciser, Mathieu Béra, que ce livre est un événement important sur le plan des idées, sur le plan universitaire, car c'est un nouveau texte d'Émile Durkheim. Pourquoi s'intéresse-t-il au crime, à la criminologie, dans ce cours ?
Alors, pourquoi il s'intéresse au crime ? Pour une raison assez facile à comprendre, c'est qu'il considère que le crime est un bon moyen de comprendre comment fonctionne la solidarité dans une société, puisque en fait le crime va provoquer une réaction, une indignation de la conscience collective.
Et on y revient, la conscience collective.
Voilà, on y revient parce qu'il en parle beaucoup, hein, dans une des leçons.
Crime lié à la conscience collective.
Voilà.
Qui est en relation avec la.
En fait, il définit le crime par la peine. Il dit qu'est-ce que le crime ? C'est quelque chose qui provoque un effet, et cet effet, c'est la peine, donc, c'est-à-dire la pénalité. Donc en fait, la société, le corps social est impacté par certains faits qu'on appelle des crimes, et ça provoque une réaction sociale qui est la peine. Et selon la manière dont la peine va se manifester dans une société, on va pouvoir caractériser le type de société. C'est ça son idée. Est-ce que c'est des sociétés plutôt modernes, à division du travail importante, ou est-ce que c'est des sociétés plutôt traditionnelles, anciennes, religieuses, à division du travail faible?
Alors dans ce livre, qui est très 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 agréable à lire, parce que vous avez fait un grand travail de décryptage du texte de Durkheim, il y a son cours, selon Marcel Mauss donc, et vous avez tout un appareil critique qui nous permet de comprendre ce qu'il dit, parce que vous précisez qu'il s'agit d'un cours par définition de la fin du 19e siècle, et que les choses ont un peu changé depuis. Hein. Donc vous remettez tout ça dans son contexte, où vous nous dites, donc après nous avoir expliqué pourquoi il choisit le crime, qu'il considère, Émile Durkheim, que le crime est un fait normal, et voire même utile.
Voilà. Voilà. Alors ça, c'est effectivement quelque chose de très contre-intuitif. Hein.
Et Durkheim, un peu, oui.
Durkheim adorait tout ce qui était contre-intuitif. Il avait un côté provocateur et il avait les arguments derrière hein, pour l'expliquer. Mais effectivement, il estime que le crime est un phénomène normal. Donc je pense que c'est la quatrième leçon. Il a dû faire un certain effet devant ses étudiants.
Oui.
Et encore plus quand il l'a publié dans une revue. Et alors pourquoi est-ce qu'il dit que c'est normal ? L'argument principal, c'est parce que en fait, il y a des crimes dans toutes les sociétés. Et comme il y a des crimes partout, dans toute société de tout temps, c'est donc un phénomène normal. Ce qu'on retrouve partout, ce qui est général, est normal. Et alors effectivement, cran supplémentaire dans son argumentation, le crime est nécessaire. Alors là, c'est encore plus fort, puisqu'il a une fonction fondamentale de renforcement de la conscience collective, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En provoquant la peine, il permet à la société de se construire sa conscience collective dans l'indignation, en fait. La société est indignée par des crimes, elle réagit, et cette réaction fait que la société existe.
Donc, sans être cynique, les criminels sont utiles, vraiment.
Exactement, mais il le dit. Il n'est pas cynique, il est objectif.
Il est objectif. Et il s'intéresse d'ailleurs au crime plus qu'au criminel, non ?
Alors effectivement, là il se démarque.
C'est ce que vous précisez également dans.
Oui, c'est ça, parce que en fait, à l'époque, ceux qui avaient le monopole du discours scientifique sur le crime, c'était ce qu'on appelait les criminologistes, considéraient que le plus important, c'était les criminels. Et il fallait essayer de comprendre pourquoi les gens devenaient des criminels. Et donc c'était essentiellement des médecins qui avaient ce monopole du discours scientifique, des auteurs comme Lombroso, qui a écrit « L'homme criminel » en 1876, des auteurs italiens souvent, c'était la criminologie italienne, on appelle ça l'école italienne. Et ces auteurs s'intéressaient aux figures des criminels, mais criminels au sens celui qui assassine, celui qui est un tueur. Alors que Durkheim s'intéresse au crime au sens large, c'est-à-dire toute infraction à la loi. C'est-à-dire aujourd'hui, on dirait les crimes et les délits. Mmh. Il s'intéresse aussi bien aux voleurs qu'à ceux qui se battent, coups et blessures, à ceux qui escroquent, voilà, toutes les formes de criminalité.
Dans sa huitième leçon, il se demande quand même si les criminels sont des fous. Alors, sont-ils des fous ?
C'est ça. Alors, le cheminement de son cours est très pédagogique, on peut dire. Bon, il a fallu que je le reconstitue parce que, bizarrement, dans les notes de Mauss, il n'y a aucun titre, il n'y a aucun interstice.
Oui, c'est ça. Vous avez créé, en fait, ces cours. Vous avez repris, enfin, vous ne les avez pas inventés, mais non. Vous les avez structurés.
C'est ça. J'ai reconstitué la logique qui était bizarrement absente des notes. Alors, je ne sais pas si c'est du fait de Mauss qui avait une technique de prise de notes comme ça, ou est-ce que c'était Durkheim qui lui-même n'écrivait pas ses plans au tableau, ce que je trouve bizarre, hein, mais bon. J'ai reconstitué donc la logique du cours, j'ai créé des intertitres, j'ai même créé une table des matières fictive pour rendre la lecture plus facile, parce que sinon ça aurait été décourageant. Hein. Et alors le cheminement de Durkheim consiste dans sa troisième et quatrième partie qu'il appelle étiologique, c'est-à-dire recherche des causes du crime. Ça consiste d'abord à présenter la littérature contemporaine, qui, comme je vous l'ai dit, est une littérature de pénalistes et de médecins, qui considèrent que le crime est causé par des dégénérescences physiologiques ou par des dégénérescences psychologiques. Donc des explications, on pourrait dire, naturalistes. Mmh. C'est la nature qui parle. Et il va, dans une quatrième partie qui est la plus intéressante pour les sociologues, il va montrer que ce ne sont pas du tout des facteurs fondamentaux. Les facteurs fondamentaux, c'est les facteurs sociaux. C'est ce qui vient du contexte social, de l'éducation, du collectif.
Suite de ce numéro d'idées consacré à Émile Durkheim et à ses leçons de sociologie criminelle avec le spécialiste de ce penseur Mathieu Béra. Avant de parler des différentes catégories de crimes que Durkheim établit, j'attire l'attention des auditeurs et de ceux que le sujet intéresse sur le fait que Émile Durkheim s'intéresse particulièrement au tatouage. C'est dans sa septième leçon, dans ce que vous avez reconstitué. Que dirait-il aujourd'hui ?
Alors effectivement, quand j'ai découvert cette leçon, j'ai été très heureux parce que les yeux me sont sortis un peu de la tête. J'ai vu tout d'un coup qu'il parlait de tatouage.
Ah, vous écrivez dans le résumé de cette septième leçon, les liens entre tatouage et vie collective, tatouage et totémisme sont explicitement établis par Durkheim.
Voilà, c'est ça. Alors en fait, pourquoi Durkheim parle de tatouage ? Puisque à l'époque, les criminologistes italiens, notamment Lombroso toujours, avaient repéré que les criminels se tatouaient, tout simplement. Au même titre que les prostituées se tatouent, que les marins se tatouent, enfin, faut que je mette au passé, se tatouer.
Oui.
Et il avait, alors, Lombroso avait même étudié, dessiné, photographié les tatouages des criminels pour essayer de trouver le sens de tout ça. Et la thèse dominante à l'époque, c'est que les criminels se tatouent parce que finalement, ce sont des sauvages. Et ils sont comme des sauvages. Et d'ailleurs, il comparait les sauvages, entre guillemets, des sociétés éloignées qui se tatouaient avec les criminels. Et il disait, vous voyez, la preuve, ce sont des sauvages. Et Durkheim, évidemment, s'insurge contre cette thèse et tarde, avant lui, s'était insurgé contre cette thèse en disant que c'est totalement absurde de dire ça et que ce qu'exprime le tatouage, fondamentalement, c'est un fait social. C'est un fait institutionnel. Se tatouer, c'est marquer son appartenance à un groupe, fondamentalement, quel que soit le groupe. Et donc, c'est une preuve, avant ou après le totémisme, qui est aussi un emblème de la société qu'on porte sur soi, c'est une preuve qu'on veut porter l'identité du groupe sur soi.
Alors ce phénomène qui s'est répandu considérablement, au moins en France, doit faire l'objet d'études de sociologues, j'imagine, aujourd'hui.
Alors évidemment, j'ai fait des recherches parce que, comme tout le monde, quand je vais à la plage, je vois bien que tout le monde, homme comme femme, se tatoue. Alors bon, il s'avère que tout le monde ne se tatoue pas, contrairement à ce qu'on peut croire sur la plage. Mais d'après des enquêtes qui sont réalisées par sondage, il y aurait donc un tiers des Français quand même qui seraient tatoués aujourd'hui. Et c'est évidemment pas un tiers de criminels. Et ça a d'autres significations.
C'est un fait social total.
Ah, c'est un fait social total, oui, si vous voulez. Alors ça, c'est une notion de demos, ça, le fait social total.
Oui, c'est pour ça que j'utilise le mot pour qu'on explique rapidement ce que ça veut dire.
Alors le fait social, donc il a ajouté total au fait social de son oncle. Le fait social total, c'est un fait social qui va toucher plusieurs aspects, des aspects juridiques, des aspects religieux, des aspects esthétiques, des aspects politiques. Voilà, ça c'est la définition un peu du fait social total. Alors le tatouage aujourd'hui est un fait social total, si vous voulez, c'est forcément esthétique. Alors, paraît-il, ce que j'ai lu récemment, c'est que c'est très lié aussi aux réseaux sociaux. Et c'est un phénomène d'imitation.
Et d'appartenance, là, toujours. Et d'appartenance. Et
évidemment, d'appartenance à des communautés qu'il faudrait identifier. Donc là, il faudrait faire des enquêtes contemporaines. Je crois qu'il y a des auteurs qui sont un peu spécialistes de ce qu'on s'imprime sur le corps, qui est effectivement essentiel. C'est aussi un rite de passage, j'ai lu ça. C'est un rite de passage pour les adolescents. C'est une des premières formes d'opposition des adolescents aux parents, avec les piercings. Voilà.
Ouais. Des choses qui restent, hélas, bien après l'adolescence, il faut le préciser. Mais nous ne sommes pas là pour faire une émission sur le tatouage. Aujourd'hui, on y reviendra peut-être un jour, Mathieu Béra. Je voudrais qu'on s'attarde sur les quatre catégories que Durkheim établit en matière de crime. Il utilise vraiment quatre catégories, le crime altruiste, le crime alcoolique, le crime ataxique. Il faut revenir rapidement sur ces notions.
Alors, c'est effectivement le... Pour le sociologue, c'est l'aspect le plus intéressant, le plus fascinant de ce cours qui est exhumé. C'est cette typologie en quatre ou cinq types de crimes, ce que j'appelle les quatre A, hein, parce qu'il y a effectivement anomique, oui, ataxique, alcoolique et altruiste. Donc c'est des catégories qu'il crée, qui annoncent un petit peu celles qu'il va proposer en 97 dans le suicide. Et qui essaye de mettre de l'ordre, en fait, dans les statistiques criminelles. Et il essaye, à chacun de ces types, il associe un délit ou un crime. Par exemple, le crime altruiste, qui est le premier qu'il aborde, et l'homicide. Alors, il dit, effectivement...
C'est assez contre-intuitif.
Voilà, encore contre-intuitif. Il adore ça. Hein. Il adore ça. Il provoque ses étudiants et il provoque ses lecteurs.
Je suis altruiste, donc je tue.
Voilà. Eh ben, on apprend avec Durkheim qu'il faut être altruiste pour tuer. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, c'est faire peu de cas de la vie individuelle, de l'individu. Et c'est sa définition de l'altruisme. L'altruisme, c'est quand la société est tout et l'individu n'est rien. Et donc, l'assassin, c'est quelqu'un qui considère que la vie, c'est pas grand-chose. Y compris la sienne, d'ailleurs, parce que souvent, des gens qui tuent acceptent de se sacrifier. Soit parce qu'ils savent qu'ils seront condamnés à mort, soit parce que, en se tuant, ils se sacrifient. Quand on pense, par exemple, aux attentats terroristes, souvent, c'est en fait un homicide-sacrifice. Voilà, donc c'est pour ça l'idée de sacrifice qui émerge d'ailleurs sous la plume de Durkheim, qui sera importante dans le suicide, parce que le suicide est une forme de sacrifice. L'idée du sacrifice illustre très bien cette idée d'altruisme. C'est le renoncement à soi. Le crime altruiste, c'est celui qui est produit par des forces qui rendent complètement inexistante la conscience de soi. Il faut s'oublier pour tuer. Et on dit d'ailleurs des criminels qu'ils ont perdu la raison, ou que, enfin voilà, ils ont dissolution du moi.
C'est une des catégories du crime selon Durkheim. Il y a trois autres catégories, alcoolique, pas besoin d'explication peut-être, là c'est pas contre-intuitif.
Si, parce que elle m'a posé un peu problème. La catégorie d'alcoolique, qu'il ne reprendra pas d'ailleurs par la suite, hein, est une catégorie un peu bizarre, parce que c'est pas une notion sociologique. Hein. L'alcoolisme, l'alcool, c'est de la chimie, l'alcool. Mais ce qui l'intéresse, c'est que il y a beaucoup de crimes qui sont produits par la vie de cabaret, par la vie sociale de cabaret, qui est une vie, une sociabilité masculine, collective, avec de l'effervescence, avec les vapeurs d'alcool, etc. Et là encore, c'est l'occasion d'ailleurs de perdre conscience de soi. Quand on boit, on s'oublie, les règles sociales s'affaissent, et il y a beaucoup de crimes qui sont produits sous l'effet de l'alcool, encore aujourd'hui. Souvent, les homicides aussi, les coups et blessures. Ouais. Donc là, il associe les statistiques de l'alcool, qui sont très nombreuses à l'époque, aux coups et blessures et aux injures.
Le crime anomique ?
Alors, le crime anomique, donc ça vient de la notion d'anomie qu'il utilise déjà dans sa thèse.
Avec le A privatif ?
C'est ça, un A privatif, absence de normes, anomie. Donc quand il n'y a pas de règles, quand il n'y a pas de normes, c'est des situations qui caractérisent selon lui le monde économique en 1890. Et effectivement, il n'y a aucun droit du travail en 1890. C'est vraiment la loi de la jungle. Et il considère typiquement que le monde économique est un monde anomique, sans règles, où finalement tous les coups sont bons. Et c'est là qu'il met les crimes économiques comme la banqueroute frauduleuse, l'escroquerie, l'abus de biens, l'abus de confiance. Voilà, il met tous ces crimes dans ce lot.
Et il reste le crime ataxique.
Alors le crime ataxique, c'est la grande découverte de ce cours, parce qu'en fait, il n'a jamais utilisé avant ce mot et il ne le réutilisera jamais. Donc en fait, on le découvre que dans ce cours. Alors je ne sais pas pourquoi il l'a abandonné. Alors il faudra que je fasse des recherches supplémentaires et que j'écrive un ou deux articles sur le sujet. Mais le crime ataxique, c'est le crime qu'il associe au vol. Et c'est le crime de ceux qui n'ont pas d'attache, de ceux qui ne sont pas tenus par la société, aussi bien par le travail, par exemple. Donc ça va être les chômeurs, ça va être les mendiants, ça va être les vagabonds. Et ça va être ceux qui ne sont pas tenus par une éducation morale. Quand ils commettent quelque chose de mal, par exemple voler, il n'y a pas une voix intérieure en eux qui leur dit « attention, c'est mal de voler ».
En tout cas, ce livre est absolument passionnant. Cette démarche et ce livre d'Émile Durkheim, que vous avez, je dirais pas inventé, mais constitué, Mathieu Béral, il s'intitule « Leçon de sociologie criminelle ». Leçon, évidemment, on l'a bien compris au pluriel. Il est publié chez Flammarion dans la Bibliothèque des Savoirs. Vous êtes fier d'avoir mené cette aventure qui est singulière dans le monde des idées.
Je suis très heureux d'avoir mené à bout cette enquête. J'ai connu beaucoup de découragement parce que l'écriture de Mauss est vraiment illisible. Mais j'ai appris à lire Mauss et j'ai appris à penser avec Mauss. Et je suis ravi de ce travail éditorial. Et même s'il n'y a pas de dossier iconographique comme c'était prévu à l'origine, il y en aura peut-être quand ça passera chez Champ Flammarion.
En tout cas, c'est une pièce importante et j'ajoute ce livre, Émile Durkheim à Bordeaux, pour mieux comprendre l'homme bordelais entre 1887 et 1902, un livre publié aux éditions Confluence. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, toute l'actualité du monde sur RFI.